5h-7h, Mathieu Noël.
Tout ce qu'il faut retenir de l'info de ce 7 juin. Bonjour Céline Kallmann.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin Céline.
Elles sont ce matin sur la première page de quasiment tous vos journaux. Les joueuses de l'équipe de France féminine débutent leur Coupe du Monde. Premier match ce soir 21h face à la Corée du Sud au Parc des Princes. L'Assemblée a voté hier soir l'assouplissement des 80 km/h sur les routes secondaires. Dans l'actualité également les mesures d'Anne Hidalgo contre les trottinettes électriques à Paris. Et puis nous serons en Normandie pour les commémorations du débarquement. Hier soir se tenait une cérémonie internationale à Courseulles-sur-Mer.
Europe 1.
Elles ont rendez-vous avec l'histoire. Les joueuses de l'équipe de France débutent la Coupe du Monde à domicile face à la Corée du Sud. Ce sera donc ce soir au Parc des Princes. Objectif décrocher le Graal le 7 juillet prochain à Lyon. Ce soir sur la pelouse, les petites joueuses de l'Athletic Club de Boulogne-Billancourt porteront les drapeaux de la France. Elles ramasseront les ballons pendant le match. Alors forcément, à quelques heures du coup d'envoi, la pression se fait ressentir pour ces fans de foot. Jeanne Bergaoui les a rencontrées pour Europe 1.
Récupérer et renvoyer le ballon sur le bord du terrain, les jeunes joueuses s'entraînent et répètent les gestes.
Les filles, le ballon comme ça.
Ouais, Juliana, sors.
Romane, l'une des 14 futures ramasseuses de balles sélectionnées.
Faites sortir la balle.
C'est comment?
En fait, c'est assez dur. On doit penser à plein de trucs en même temps. Alors qu'en plus, l'action, elle va durer 5-6 secondes, le temps de rattraper et tout. Il faut être bien concentré tout le match. On sera du coup aux premières loges, c'est trop bien.
Aux premières loges ce soir, il y aura aussi Juliette, Lou et Léa. À 12 ans, ces trois joueuses de l'Athletic Club de Boulogne-Billancourt seront-elles porte-drapeau sur la pelouse du Parc des Princes.
C'est unique, je ferai ça une fois dans ma vie, donc je vais profiter.
Je suis fière pour mon pays, promouvoir le foot féminin, c'est important.
J'espère rencontrer des joueuses de France, parce que j'en ai des favorites. J'ai Wendy Renard, Mbot, c'est hyper important. Pour montrer les filles, elles ne sont pas mises à l'écart. On a de la chance et vraiment c'est incroyable.
Sur la pelouse ou dans les tribunes, ces joueuses vont suivre chaque match des Bleus. Leur club a acheté 100 places par rencontre organisée dans la capitale.
Jeanne Bergaoui pour Europe 1, coup d'envoi de la rencontre. Donc ce soir devant 47 000 spectateurs à 21h, soirée spéciale sur Europe 1 dès 20h, en public au studio Belmar avec Lionel Rousseau, entouré de nombreux invités et chroniqueurs. Je vous rappelle que 8 départements sont placés en vigilance orange ce matin. De 8 départements de l'ouest du pays, ça va de la Loire-Atlantique jusqu'à l'Indre, en passant également par la Charente-Maritime. On attend jusqu'à 110-120 km des rafales allant jusqu'à 120 km par heure. Soyez vigilants si vous vous trouvez dans ce secteur. Les 80 km/h, une mesure gouvernementale qui fut l'un des détonateurs de la crise des Gilets jaunes. Hier soir, l'Assemblée a voté la possibilité d'assouplir la limitation. Ce sont désormais les maires et les départements qui seront chargés de déroger aux 80 km/h entrée en vigueur en juillet 2018.
Et puis Anne Hidalgo a pris des mesures contre les trottinettes électriques.
Oui, la mairie de Paris a décidé d'interdire leur stationnement sur les trottoirs et ce dès le mois prochain. Pas question d'attendre le vote de la loi mobilité. Elle demande aujourd'hui au préfet de police un arrêté. Aude Vernuccio.
À la sortie des bureaux, près des stations de métro ou en bas des immeubles, même constat, des trottinettes qui s'entassent sur les trottoirs et des usagers qui ne circulent pas toujours sur la route malgré l'amende de 135 euros, souvent parce qu'ils connaissent mal les règles.
Malheureusement, les gens en abusent, les gens vont trop vite sur le trottoir, ils font du slalom entre les voitures, comme monsieur qui vient de passer. Je vois certains qui les mettent en plein milieu ou qui gênent vraiment le trottoir. Donc...
J'évite de la mettre en plein milieu quand même.
Bon, ça c'est interdit.
Ok, je savais pas. Prendre le temps de se garer pour une trottinette, c'est vrai que c'est pas non plus l'idéal, mais ça me paraît logique.
Désormais, tout sera écrit noir sur blanc dans un arrêté. Vitesse limitée à 20 km/h, stationnement interdit sur les trottoirs. Vous devrez trouver une place, un cadre mieux défini pour les opérateurs de trottinettes, comme Henri Capoul, directeur de Bolt.
Si vous louez une trottinette électrique, vous êtes responsable de votre conduite. Nous, on a mis en place un plan de communication avec des règles qu'on fait tourner sur les réseaux sociaux avec des quiz. Mais c'est vrai que l'utilisateur qui découvre encore ce moyen de transport n'est pas encore très clair. Donc c'est bien que la mairie de Paris prenne la parole pour aller clarifier tout ça.
D'autant que la trottinette électrique devient un moyen de transport de plus en plus utilisé, au point que les loueurs envisagent de souscrire des assurances pour couvrir les utilisateurs en cas d'accident.
Aude Vernuccio pour Europe 1, l'un des propriétaires d'un supermarché d'Héricourt en Haute-Saône, retrouvé sans vie. La semaine dernière, il avait été mis en examen pour harcèlement moral contre des salariés. Une enquête a été ouverte pour comprendre les causes de son décès. Une femme enceinte poignardée à plusieurs reprises par son conjoint, ça s'est passé mercredi soir en Seine-Saint-Denis. Le fœtus de 5 mois n'a pas survécu. L'homme s'est rendu de lui-même au commissariat accompagné de ses enfants de 5 et 7 ans. Il avait déjà été condamné pour des antécédents de violences conjugales. Quelques 400 kilos de drogue de synthèse saisis par la douane dans un camion sur l'autoroute en Saône-et-Loire. Le chauffeur de nationalité espagnole, a été placé en garde à vue.
Une cérémonie internationale à Courseulles-sur-Mer pour clôturer les célébrations du débarquement.
Oui, tous les pays européens étaient représentés hier par leur chef d'État, leur ministre ou ambassadeur. Il y avait aussi un représentant des États-Unis, de l'Australie, ainsi que le premier ministre du Canada, Lord d'Autriche.
À quelques mètres de la plage de Juneau, tous les pays rassemblés. Il y a 75 ans, 14 000 Canadiens débarquaient sur ces 8 km de sable. Les soldats, pour beaucoup, n'avaient aucune expérience du combat. Édouard Philippe a remercié tous ces soldats d'être venus libérer la France.
Certains voulaient se montrer dignes d'un père qui avait lui-même affronté la Première Guerre mondiale. D'autres n'avaient rien demandé. Ils partaient à contre-cœur et ignoraient sans doute qu'ils avaient l'étoffe des héros.
Dans le public qui assiste à la cérémonie, il y a Marc, Canadien. Il est venu d'Ottawa, accompagné de sa femme, dont l'oncle est enterré en Normandie.
Il est décédé le 23 août 1944. Il était dans la deuxième vague avec la deuxième division canadienne. Et par la suite, il est tombé mort. Et donc, il est enterré là. C'est très, extrêmement émouvant parce que ça représente... une libération d'un peuple et de l'Europe, en fait.
Et s'il y a un point commun entre tous ceux qui sont venus assister aux cérémonies, c'est leur attachement à la paix, à la liberté. Beaucoup ont dans leur famille un père, un grand-père, un oncle qui a fait la bataille de Normandie.
Lord d'Autriche pour Europe 1. Une baleine de près de 17 mètres de long s'est échouée sur une plage de la presqu'île de Crozon dans le Finistère. Elle est visiblement décédée en mer, probablement à la suite d'une collision avec un navire.
Merci, c'était le journal de Céline Kallmann. Céline avec qui, n'en déplaise à son mari, nous formons vraiment un couple merveilleux. Car même lorsqu'elle se moque de mes prestations à la machine à café auprès de nos collègues, eh bien, in fine, elle trouve toujours un argument pour me défendre.
C'est vrai que c'est court, 6 minutes.
C'est plus que la moyenne des Français.
Et plus c'est court, plus c'est bon.
Ah, merci Céline, c'est bien de le reconnaître.
Europe 1.
5h-7h, Mathieu Noël.
À suivre, c'est historique, le fact-checking par l'histoire. Ce matin, Fabrice Dalméda a prévu un beau gâteau d'anniversaire, car figurez-vous que le Vatican fête ses 90 ans.
Kissou.
Ah non, le pape François, non, c'est l'idée des limites quand même.
Bon réveil, il est 6h07. Il est 6h08, Mathieu Noël.
On fait un point sur la météo du jour avec vous, Céline. Et ma foi, la tempête Miguel arrive.
Oui, une tempête dont on va vous parler largement aujourd'hui et qui aurait été plus juste si elle était arrivée au mois de décembre ou au mois de mars.
Ah, voilà, oui.
Voilà, mais pas en juin, hein, c'est plutôt étonnant. Un coup de vent qui va concerner quasiment tout le pays aujourd'hui. Pour l'instant, 8 départements sont en vigilance orange dans le centre-ouest de la Loire-Atlantique jusqu'en Charente-Maritime et en Indre, mais cette vigilance va peut-être évoluer. Pour l'instant, ça n'a pas bougé. Cette tempête, elle va traverser la France d'ouest en est avec des pluies, des orages et puis de fortes rafales de vent, je vous le disais, 110 à 120 km à l'heure sur les côtes atlantiques, 90 km à l'heure dans les terres, des températures qui vont baisser sur l'ouest du pays, un 14 à 21 degrés, ça sera la moyenne pour cet après-midi. Sur l'est, ça va rester chaud puisque le soleil va bien résister ce matin, 24 à 31 degrés.
Merci Céline. Et Varoc.
Question un peu décalée, mais pour finir en
j'aime
rire,
pas beaucoup le décalage,
en beauté,
moi, vous savez. Ce n'est pas vraiment l'esprit de cette matinale, Eva.
Sont nés un 7 juin, à la fois Prince et Jean-Pierre François. Voilà.
Il arrive, je te survivrai. Le mash-up.
Le mash-up.
Que le monde attendait.
Probable. À cette occasion, on vous demande quels sont les deux artistes qui n'ont rien à voir entre eux, mais que vous aimez beaucoup. Eh bien, vous rivalisez d'ingéniosité. Viviane nous dit David Bowie et Dalida. En nous précisant qu'ils sont tous les deux Capricornes. Merci pour l'info. Damien nous dit j'étais fan de Prince, qu'il a vu 7 fois en concert, mais il adore Richard Gauthier. J'adore ce combo. Et Jérémy nous dit NTM et les musclés. Pas mal aussi, hein. Ouais. Vous continuez à réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
J'en reste sans voix.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Alors que Roland Garros bat son plein et que la France entière, moins une personne, vibre pour le tennis.
De toute façon, j'en ai marre, Federer, Nadal, c'est toujours pareil, quoi.
Oui, bah, on vous retrouve, Jérôme Lacroix, pour le Journal des Sports.
On avait caché ça, hein.
Vous avez caché. Ouais, voilà,
vous ne savez pas tout.
À la une, la France prête à vibrer pour les Bleus.
Allez les Bleus.
Allez les Bleus.
La chanteuse toulousaine Jane se produit ce soir pour la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde féminine de foot, 8e édition. Et pour la première fois, c'est en France. Alors bien sûr, plein feu sur nos bleus. Match d'ouverture France-Corée du Sud, un Parc des Princes dont les tribunes seront pleines à craquer. 47 000 spectateurs, parmi eux 700 fans, parmi les plus fervents. Ils s'appellent les Irrésistibles Français. Ils encouragent les garçons d'habitude, mais ils sont aussi fous des filles.
On
On a préparé la Coupe du Monde féminine comme la Coupe du Monde masculine. On espère faire notre boulot de deuxième homme et pour le coup de notre douzième femme, puisque c'est ça qu'on veut être aussi.
On y a hâte d'y être, pousser les filles, chanter pendant 90 minutes.
Ça aurait été, à mon sens, rentrer dans le cliché de se dire qu'on traite les filles d'une façon différente. Nous, lorsqu'on supporte l'équipe de France, on supporte surtout le maillot. Donc il n'y a pas de raison qu'on fasse des chants différents.
Et pour les joueuses, c'est un moment singulier qui s'annonce, se produire, entrer sur le terrain devant 47 000 spectateurs, alors que le quotidien de la plupart en D1 française, ce sont des affluences entre 500 et 2000 personnes. Moins vrai pour celle qui joue à Lyon, un club prestigieux. Amandine Henry, par ailleurs capitaine française, s'est déjà fait le film.
Bah moi, je me fais un petit film dans ma tête. J'imagine le stade rempli, belle performance, avec de belles émotions. Je sais pas comment ça va se passer, mais je pense que ça va être un bel événement et qui va être ancré dans nos mémoires.
La France, quatrième nation au classement mondial, vise à domicile la conquête d'un tout premier titre majeur. Les championnes en titre sont les Américaines. Le mondial féminin de foot à vivre sur Europe 1. Tous les matchs des Bleus en intégralité avec Sandrine Roux, ancienne internationale consultante. Ce soir, rendez-vous dès 20h pour ce France-Corée du Sud en intégralité.
Les garçons maintenant, N'Golo Kanté blessé et forfait.
Touché à un genou, il ne disputera pas les deux matchs de qualification à l'Euro 2020 en Turquie demain soir et en Andorre mardi prochain. Un nouvel entraîneur à Saint-Étienne, Gislain Printemps, 58 ans, remplace Jean-Louis Gasset, parti. Il était auparavant son adjoint, il s'est engagé pour 2 ans. Le tennis et le court central de Roland-Garros pèsera aujourd'hui à la mi-journée. 37 titres du Grand Chelem, Roger Federer, 20, Rafael Nadal, 17. Les deux titans doivent s'affronter aujourd'hui à partir de 12h50. Sous réserve des conditions météo pour une place en finale. Nadal, 11 fois sacré à Paris, est favori face à un Federer de retour sur terre battue. L'ancienne championne Amélie Mauresmo scrutera d'ailleurs principalement le comportement du Suisse.
On va voir un petit peu à son âge, entre guillemets, ce que peut produire Roger. Rafa est favori, évidemment, assez largement. Peu de chance peut-être pour Roger, mais je vais être très intéressée de voir ce qu'il va proposer.
Et Federer, bientôt 38 ans. La seconde demi-finale, c'est Djokovic face à l'Autrichien Thiem. Les deux demi-finales dames sont aussi prévues aujourd'hui dès 11h, mais aucune sur le court central. Une honte, a déclaré à ce propos Amélie Mauresmo, justement.
On termine avec l'histoire du jour, Jérôme.
Thierry Omeyer a été super fêté hier soir au stade de Coubertin à Paris, le plus grand gardien de l'histoire du handball, celui des Bleus, 42 ans, il prend sa retraite. Il a disputé hier soir son dernier match avec le PSG et il a gagné contre Cesson-Rennes 29-20.
Merci, c'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. L'heure pour Gégé de s'éclipser et pour Fabrice Dalméda, le monsieur histoire d'Europe 1, de nous rejoindre avec mes fidèles complices Eva et Céline. Oui, Jérôme.
Deux dames, deux messieurs, le parfum d'un risque d'embouteillage.
Comme c'est joliment dit. Mais pour l'instant, on va garder nos habits puisque voici la rubrique histoire.
Europe 1.
Je vous ai compris.
Ich bin ein Berliner.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
C'est historique.
Bonjour Fabrice Dalméda.
Bonjour à tous.
Le Vatican célèbre les 90 ans de sa reconnaissance internationale, car c'est en 1929 qu'il est devenu un État indépendant. C'est un tournant dans les relations internationales.
Bah oui, parce que cela crée un tout nouveau genre d'État, une cité-État. Jadis, le pape était un souverain avec ses terres, comme un roi. Rome, la région des Marches, l'Ombrie et même Avignon au Moyen-Âge étaient soumises à son gouvernement. Mais l'unité italienne à partir de 1859 change tout. Petit à petit, le pape Pie IX perd ses territoires qui se rattachent à la toute nouvelle Italie. En 1870 même, Rome est annexée par le nouvel État italien, si bien que le pape n'a plus de terres. Pie IX refuse de reconnaître cette nouvelle Italie et se déclare prisonnier dans son palais du Vatican. Il n'en sortira plus.
Cette situation a duré longtemps.
Presque 60 ans, y compris pour les successeurs de Pie IX. Et cela a entraîné des grandes tensions entre l'État italien et le pape. Mais enfin, des négociations commencent entre Mussolini pour l'Italie et le cardinal Gaspari pour la papauté. Et ils trouvent un compromis. Ce sera les accords du Latran, signés le 11 février 1929. La cité du Vatican avec Saint-Pierre et le palais devient une cité-État indépendante. Le pape peut mener sa politique étrangère. Il reçoit une indemnité pour les biens dont il a été amputé. En échange, l'Italie reconnaît le catholicisme comme religion d'État.
Et tout cela entre en application le 7 juin 1929.
Bah oui, c'est le 7 juin 1929 qu'a eu lieu l'échange de ratification des accords du Latran. Le Vatican devient le plus petit État au monde. Le pape adopte une loi fondamentale, c'est la constitution de la cité du Vatican. Désormais, le chef spirituel mondial qu'il est a les moyens de son indépendance juridique et matérielle.
Ben merci beaucoup Fabrice Dalméda. L'histoire à la rescousse de l'actualité, on se retrouve lundi, peu avant 6h15.
Europe 1, 5h-7h, Mathieu Noël.
Debout les copains continue, 2 heures d'actu et d'invités qui la font, et à 6h20 on trouvera une femme qui fait sacrément l'actu aujourd'hui. On peut même dire que les caméras du monde entier seront braquées sur elle ce soir à 21h. Non Eva, ce n'est pas vous, il s'agit de Gaëtan Tinet, milieu offensif de l'équipe de France de foot. Le mondial féminin démarre, vous le savez, aujourd'hui. Malgré les récentes blessures, nos bleus sont-elles prêtes à relever le défi? Réponse dans quelques instants. En tout cas, Fabrice Almeida est très excité.
Mondial.
Calmez-vous.
Il est 6h16, bon réveil. Il est 6h19, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
8 départements de l'ouest du pays allant de la Loire-Atlantique à l'Indre et la Charente-Maritime placés en vigilance orange par Météo France, arrivée de la tempête Miguel. Des rafales de 110 à 120 km/h sont attendues. Le rappeur Rof a dormi en prison. Il a été condamné en appel à 5 ans de détention pour violence aggravée en avril 2014. Lui et plusieurs complices avaient saccagé un magasin de vêtements appartenant à Booba, son ennemi dans le monde du rap. Enfin, Theresa May doit quitter aujourd'hui la tête du parti conservateur. Elle reste première ministre britannique jusqu'à la désignation de la personne qui lui succédera d'ici la fin juillet.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
L'actualité, c'est aussi l'événement sportif de ces prochaines semaines, la Coupe du Monde de foot féminin. Rarement une telle manifestation avait suscité un tel engouement. C'est tant mieux, l'équipe de France fait partie des favorites. Bonjour Gaëtan Tinet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes une des cadres de cette équipe de France. Vous jouez en club au Paris FC. Moi, mon club de cœur, bon, c'est plutôt l'OM, mais on va quand même réussir à s'entendre. Ma première question sera vraiment droit au but, comme l'OM. Est-ce qu'on va gagner cette Coupe du Monde?
En tout cas, on fait tout pour. On se prépare pour et on fait tout pour. Donc, j'espère comme vous qu'on va la gagner.
Vous avez, je crois, le numéro 17 dans cette équipe de France.
Exactement.
Or, vous êtes milieu offensif. Vous êtes un peu l'Antoine Griezmann de l'équipe de France féminine. C'est un peu cette position que vous occupez sur le terrain?
Oui, c'est ça. Je suis numéro 10 avec un profil assez polyvalent. Mais voilà, j'aime bien me faufiler entre les lignes et me montrer entre les lignes pour essayer de créer les décalages et des équilibres. Donc, j'ai
vous
un
aimez
rôle
dribbler.
De numéro 10.
À quel âge vous avez commencé le football? Parce qu'aujourd'hui, le foot féminin s'est démocratisé, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup de petites filles qui ont envie de taper dans la balle. Mais à notre époque, parce qu'on est un peu de la même génération, je suis un peu plus âgé que vous, mais j'estime qu'on est de la même génération, il y avait moins de filles qui se mettaient au foot. Ça a été quoi le déclic?
Moi, le déclic, j'avais 5 ans, donc j'étais très très jeune et... Déclic, c'est que mon père, il adorait le foot. Ma maison était à 150 mètres du stade et j'étais dans une ville, Brienne-le-Château, où il n'y avait pas énormément d'assos sportives. Et très vite, je me suis mis au foot un peu par hasard et j'ai adoré surtout être avec mes copains et jouer, voilà, faire un sport co. Et très vite, le foot est devenu ma passion.
Une question juste, parce que c'est la même question pour les garçons, mais est-ce que le don, le talent, on le détecte vraiment à 5 ans? Vous étiez déjà surdoué, c'est-à-dire à 5 ans, on savait que vous deviendrez professionnel? Ou c'est à force d'abnégation et d'entraînement que ce destin est apparu?
Ouais, je pense pas qu'on puisse détecter à 5 ans. Ce qu'on peut détecter, c'est très rapidement, c'est la détermination et l'envie. Moi, j'avais envie de m'entraîner tous les jours et quand j'avais pas entraînement, j'allais voir mon père en entraînement et je ramassais les ballons derrière le but. Donc j'avais envie d'être dehors, de regarder du foot, de manger foot, de tirer avec le ballon contre le mur de ma maison et ça faisait des grosses marques sur le mur blanc. Voilà, ça j'aimais et voilà, j'ai toujours été passionnée. Après, on peut être passionné et pas avoir le talent. Moi, j'ai eu la chance de travailler, de l'avoir et je suis très très heureuse et aujourd'hui je vis ma passion à fond.
Eva Roch.
Gaëtan Tinet, vous avez une particularité, vous êtes footballeuse à mi-temps parce qu'en parallèle vous êtes conseillère technique au sein de la Fédération Française de Football. Qu'est-ce que vous y faites exactement au sein de cette fédération?
Alors, au sein de la fédération, je suis conseillère technique et je m'occupe du développement du football des enfants, garçons-filles. Par choix, j'ai voulu continuer à avoir une vie professionnelle autre que le football, en sachant quand même que le football est le cœur de mon quotidien puisque tout est réglé en fonction de ma performance et ce double projet que j'ai à côté est là pour que je sois performante puisque j'ai déjà essayé une année sans rien et je m'ennuie.
Gaëtan, une question un peu pratique, vous parliez reconversion quand on est une joueuse de foot professionnelle, on est obligé d'y penser. Les garçons, à la limite, ils peuvent devenir consultants sportifs par amusement, avec ce qu'ils ont gagné dans leur vie en tant que joueur, ils peuvent très bien partir à Ibiza sur un yacht pour le restant de leur jour. Malheureusement, j'imagine que les salaires ne sont pas tout à fait les mêmes dans le football féminin. Vous, chacune d'entre vous, même les meilleures joueuses de foot du monde, doivent penser à une reconversion professionnelle?
Oui, mais même si j'étais un garçon, je penserais à ma reconversion parce qu'elle est Ibiza sur un yacht pendant 20 ans, ça doit être compliqué.
C'est sûr que ça va être un peu ennuyeux finalement, c'est vrai.
Mais c'est vrai que les salaires sont moins importants, mais encore une fois, et comme je dis souvent, au regard de l'économie autour du football féminin, je pense que les salaires sont en train de grandir énormément et les budgets qui sont mis en D1 en tout cas sont de plus en plus importants. Donc voilà, si vous, chez vous, vous gagnez 100 et vous ne pouvez pas donner 200. Donc il faut, je pense, y aller progressivement. Et aujourd'hui, on est dans une progression qui, je trouve, logique et normale.
Un dernier mot, Gaëtan, sur les matchs qui vous attendent entre la Norvège, la Corée du Sud et le Nigeria. On connaît moins bien ces équipes que dans le foot masculin. Quelle est la plus dangereuse ?
Je pense que les trois vont être difficiles pour des contextes différents. Le premier, parce que ça sera le premier.
Ouais,
le premier d'une compétition, c'est pas simple. La Corée du Sud est une bonne équipe, une équipe organisée, rigoureuse. On va jouer dans une atmosphère qu'on ne connaît pas forcément, le Parc des Princes, et il va falloir être performante tout de suite. Donc il va falloir faire attention à ça. La Norvège, qui est une équipe très rugueuse, solide physiquement et qui s'est qualifiée en étant première de son groupe sans sa star à Dagerberg, qui est ballon d'or.
Méfions-nous alors là, oui.
Et voilà, il faut se méfier. Et le dernier match, c'est le Nigeria. Et ce sont des équipes africaines qui sont très athlétiques et qui sont capables un petit peu de, je ne vais pas dire de tout et n'importe quoi, parce qu'il y a un peu moins de rigueur et plus de folie, donc surprenante.
Ah ben il y a vraiment tout, c'est un bon cocktail ce groupe. Ouais. En tout cas, il y aura du spectacle. Il y aura du spectacle pour les spectateurs. Et ben on vous suivra, on vous souhaite évidemment le meilleur pour cette Coupe du Monde. Merci Gaëtan Tine d'avoir été avec nous ce matin au micro d'Europe 1. On remercie également Julien Froment pour la technique. Merci à vous.
Europe 1. Il est 6h25. Mathieu Noël.
Debout les copains continue avec le journal du Luciano Pavarotti de l'info. David Doucan. Puis la météo marquée par l'arrivée de la tempête Miguel.
Il est 6h28, Mathieu Noël.
Juste avant le journal de 6h30, on fait un point sur la météo, Céline Dacosta. Attention, la tempête Miguel arrive.
Mais oui, c'est vrai, des tempêtes, on en a souvent plein milieu d'hiver, beaucoup moins au mois de juin d'ailleurs. La dernière, c'était il y a 32 ans, 1987. Côté ciel donc, cette tempête qui arrive. Elle est déjà bien présente sur le centre-ouest du pays. 8 départements sont placés en vigilance orange. Les vents vont atteindre les 120 km à l'heure sur les côtes de Charente-Maritime ou de Vendée. 100 km à l'heure en Loire-Atlantique, en Gironde et puis à l'intérieur des terres en Poitou-Charente et en Touraine. Une tempête qui va traverser tout le pays en se décalant vers le nord-est. Tout le monde ou presque devrait être impacté par ces pluies, ces orages et ces rafales de vent violentes à l'intérieur des terres, 90 km à l'heure. Ce sera le cas en région parisienne pour cet après-midi. En attendant, il reste un petit peu de soleil sur le flanc est pour ce matin et cet après-midi sur la Côte d'Azur et la Corse.
Un mot rapide des températures.
Oui, 12 ce matin, elles vont baisser sur l'ouest du pays cet après-midi avec une moyenne de 14 à 21 degrés. À l'est, ça sera encore chaud, 25 à 29 degrés jusqu'à 32 à Ajaccio.
Merci Céline.
Europe 1,
5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures d'infos délicatement parsemées ça et là de quelques copeaux de fantaisie portés par une équipe toujours motivée, même si les problèmes de boisson de Céline D commencent à nous miner, car plus on approche de la fin de la saison, plus ça va en s'aggravant. Elle voit de l'alcool partout.
Moi, j'adore changer de lunettes. Et avec Chin Chin d'été.
Chin Chin. C'est pour le Sprite ? Ça, c'est une pub pour le Sprite ? Chin Chin.
C'est bientôt la fin de la saison. Elle va arriver d'un coup, la fin de la saison, là.
J'espère. Hein. Faut picoler, c'est ça que t'as dit ?
Non, non. Rien à voir. Bon, heureusement, eux sont toujours sobres, enfin surtout avec celle de Tarlet et Aurélie Herbebon. Politique, économie, médias, chaque matin les trois fantastiques jettent sur l'actu un regard acerbe mais juste. Aujourd'hui, Axel de Tarlet nous dévoilera notamment le palmarès des enseignes préférées des Français.
Vous écoutez Europe 1, il est 6h30. Mathieu Noël.
Voici le journal de 6h30 présenté par David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin.
La une, elle tient en trois mots. Allez les Bleus. C'est au tour des filles de
allez
faire vibrer la France. La Coupe du Monde commence ce soir. Les Françaises affrontent la Corée du Sud au Parc des Princes. Match d'ouverture. L'Europe va-t-elle taxer le kérosène ? Aujourd'hui, le secteur aérien est exempté. Pas d'impôt sur le carburant des avions. Est-ce tolérable face à l'urgence climatique ? Plusieurs pays, dont la France, plaident pour que cela change. Et puis, connaissez-vous la K-pop ? Cette musique coréenne fait fureur partout dans le monde. Nos ados ne peuvent plus s'en passer pour certains. Concert géant ce soir et demain au Stade de France. Et c'est à guichet fermé.
Europe 1.
Elles ont rendez-vous avec l'histoire. Les Bleus, match d'ouverture de la Coupe du Monde de football féminine. Ce soir, 21h, Parc des Princes à Paris. France-Corée du Sud, les Françaises ont la pression. Mais elles jouent toutes au plus haut niveau et elles se sont préparées avec nous. Julien Froment du service des sports d'Europe 1. Cet événement, cette Coupe du Monde, Julien, les championnes l'ont en tête depuis toujours.
Ah oui, c'est clairement le tournoi d'une vie pour les joueuses de l'équipe de France. Elles attendent ça depuis 2 ans, de longues années, à jouer des matchs amicaux pour préparer cette Coupe du Monde. Cette fois-ci, c'est du sérieux, devant leur public, dans un Parc des Princes plein à craquer. Les Bleus s'apprêtent à vivre un moment unique, la capitaine Amandine Henry.
C'est un rêve de pouvoir jouer un match de Coupe du Monde, mais en plus dans son pays, on fera qu'un sur le terrain et on est prête à s'encourager coûte que coûte.
47 000 spectateurs, le président de la FIFA, Gianni Infantino, de la FFF, Noël Le Graët, mais aussi le président de la République, Emmanuel Macron, seront présents dans les tribunes. Pression populaire, médiatique, et c'est parce qu'il y aura cette pression justement qui va monter d'un cran dans les prochaines heures que la sélectionneur nationale, Corinne Diacre, a tenté de dédramatiser ce match d'ouverture.
En cas de non-succès, rien ne sera perdu, même si on sait pertinemment que de bien démarrer, c'est-à-dire gagner ce premier match, c'est important, mais c'est pas primordial.
Mais personne n'est dupe. Cette rencontre face à la Corée du Sud donnera le la du tournoi. C'est donc le moment de se lâcher pour l'équipe de France. Car comme le dit le slogan de la Coupe du Monde, c'est le moment ou jamais de briller pour les Bleus.
Julien Froment du service des sports d'Europe 1. Merci Julien. On vous retrouve d'ailleurs ce soir. Vous serez avec Lionel Rosso. Soirée spéciale sur Europe 1 dès 20h au studio Belmar en public. Avec entre autres notre consultante Sandrine Roux et bien sûr le match en direct. Et en intégralité.
Allez les Bleus !
Et puis, fin de saison chaotique pour Neymar. La star du Paris Saint-Germain a été entendue par la police à Rio de Janeiro dans une affaire de viol. Son accusatrice avait livré sa version à la télévision brésilienne quelques heures auparavant. Enfin, vous le savez, il est à nouveau blessé à la cheville cette fois et ne pourra pas jouer la Copa América avec la Seleção. Laurent Wauquiez a, lui, fini par démissionner, mais pas Jean-Luc Mélenchon. Le leader insoumis ne dit rien, ou presque, depuis le dimanche des Européennes et le score très faible de son parti, un peu plus de 6%. Il est pourtant la cible d'attaque, notamment de la députée Clémentine Autain. Il est apparu hier à Bruxelles pour installer les députés européens insoumis et il a gardé le silence sur son avenir en France. Virginie Riva.
Pas un mot. Depuis Bruxelles, où il installait ses eurodéputés, Jean-Luc Mélenchon n'a pas souhaité prendre la parole. Il est au repos médiatique, dit son entourage. Il est percuté, il n'avait pas vu venir les 6%, commente un député insoumis. Le problème, c'est que tout le monde en interne attend son analyse sur le naufrage électoral des européennes, à la fois quant à sa ligne politique, c'est le sens de la tribune de Clémentine Autain, comme sur sa gestion du mouvement dénoncé dans une note interne publiée hier et signée par 42 cadres et militants. L'hypothèse de remettre son mandat de chef de groupe parlementaire serait sur la table. Pourquoi pas? Pour y mettre Mathilde Panot, très proche de lui. Jean-Luc Mélenchon pourrait également évincer Manuel Bompard de la tête de la France insoumise. Il a fait toutes les basses besognes. Il est honni par les militants, tacle un député insoumis. Pourquoi pas pour le remplacer Adrien Quatennens, mis en avant durant toute la campagne des européennes. Reste la question du débat interne, toujours pas d'espace pour débattre, à part à l'Assemblée le mardi matin, dans le secret de la réunion hebdomadaire. Dans 2 semaines, les insoumis ont convoqué une assemblée représentative où les tensions risquent d'éclater au grand jour.
Virginie Riva pour Europe 1. Cette fois, c'est fait. Les députés ont renoncé aux 80 km/h. L'Assemblée nationale a autorisé la possibilité de relever la vitesse sur certaines routes départementales, mais pas sur les nationales. Ce sont les présidents de conseils départementaux, mais aussi les maires, dans certains cas, qui en auront le pouvoir et donc la responsabilité.
À suivre dans ce journal, c'est un sujet qui choque. Depuis quelques mois, le carburant des avions n'est pas taxé. Eh bien, cela pourrait changer. L'Europe s'y attaque. À tout de suite.
Il est 6h34. Europe 1. Il est 6h36, Mathieu Noël.
La suite du journal, David Doucan. Aujourd'hui, le secteur aérien est exempté de taxes sur le carburant, mais cela pourrait changer.
Oui, face à l'urgence climatique, l'Europe bouge un peu. Avec nous, la correspondante d'Europe 1 à Bruxelles, Isabelle Horry. Plusieurs pays, dont la France, demandent, Isabelle, à la Commission de réfléchir enfin à une taxe sur le kérosène.
Oui, on peut même dire qu'une première étape a déjà été franchie. Bruxelles vient de rendre une étude publique. Elle chiffre les dégâts pour l'environnement de l'activité de 33 aéroports européens, dont Roissy et Orly. Émissions de CO2, pollution de l'air, bruit, le coût pour la société est évalué à 33 milliards d'euros par an. De quoi donner de sacrés arguments à ceux qui veulent instaurer un principe pollueur-payeur pour le secteur aérien. Alors les Pays-Bas et la Suède sont en pointe sur ce dossier. En Suède, le mouvement de boycott du transport aérien prend de l'ampleur et le pays a déjà instauré une taxe nationale sur les billets d'avion. Les Pays-Bas le feront aussi dans 2 ans. La France, elle, veut une solution européenne. Elle l'a dit hier lors de la réunion des 28 ministres des Transports. Plusieurs pistes sont envisagées. Une taxe sur le kérosène, une taxe sur les billets d'avion, des mesures de compensation financées par les compagnies. Évidemment, il va falloir attendre la nouvelle Commission européenne qui sera désignée dans les mois qui viennent. Mais ce qui est désormais clair, c'est que ce sujet figurera forcément à son programme.
Depuis Bruxelles, Isabelle Horry pour Europe. Europe 1. Merci à vous Isabelle. Et puis aujourd'hui, c'est une conséquence du Brexit. Theresa May s'efface. La première ministre britannique quitte la tête du Parti conservateur. Cela ouvre officiellement la course à sa succession qui désignera celui ou celle qui aura la lourde tâche de réussir là où elle a échoué. Si vous avez un ou surtout une ado à la maison, vous y avez forcément été confronté. La K-pop, cette musique coréenne, est un phénomène mondial, en particulier le groupe BTS. BTS, me dit Céline Dacosta. Ils sont ce soir et demain au Stade de France. Leur clip Boy With Love a été visionné 70 millions de fois en 24 heures. Les fans en France comme ailleurs sont au bord de la crise d'apoplexie. Diane Chenouda l'a constaté pour Europe 1.
Ils ont entre 15 et 25 ans, une majorité de filles, dont certaines ont les cheveux bleus ou verts, comme leurs idoles. Sept garçons dans le vent, look androgyne et flashy, ils enflamment les stades avec leur K-pop acidulé, mélange de pop, rap, électro.
Ils ont une énorme richesse au niveau musical, au niveau des paroles. Ils m'ont beaucoup aidée dans les moments où j'étais au plus bas, ce qui font passer de très beaux messages comme apprendre à s'aimer, à s'accepter. J'adore la danse, donc les voir danser, c'est aussi extraordinaire. J'y vais les deux jours, je vais au concert les deux jours.
Beaucoup de fans iront en effet les voir ce soir et demain soir, malgré le prix des places, jusqu'à 600 euros en VIP, car tous veulent revivre les émotions du dernier concert de BTS en octobre à Paris.
Il y a beaucoup d'ambiance avec les fans, ils sont hyper joyeux. Et
c'est extraordinaire, vraiment.
C'était magique, ils sont merveilleux, ils font vraiment chaud, très bons danseurs, des très bons chanteurs, vraiment parfait.
Les 110 000 places pour ce soir et demain sont parties en moins de 2 heures.
Voilà, Diane Chenouda du service culture d'Europe 1. Je vous dis un mot de sport, Mathieu ?
Oh, volontiers.
Roland Garros, enfin, on a commencé avec le sport, mais un mot de tennis pour être précis. Roland Garros, le climax, le match au sommet, la rencontre que vous attendez. Demi-finale homme, c'est à 12h50 sur le court central, Nadal-Federer. Je vous donne, parce que je sais que vous en êtes friand, quelques statistiques.
S'il vous plaît.
C'est la 39e fois que les deux hommes s'affrontent, la 6e fois sur la terre battue de Roland Garros. Alors, sur 6 matchs à Roland Garros, Rafael Nadal en a remporté 5.
Hop, Suisse.
Comment?
Eh oui, hop Suisse, c'est comme ça qu'on encourage les Suisses.
Ah, bah
vous
ça,
dites
c'est...
aller les Bleus, nous on dit hop Suisse.
D'accord.
Oui, c'est pas mal aussi.
Quelle ambiance.
Merci, ah, c'est la folie dans les stades suisses. C'était le journal de David Doucan. David, dont on assiste aux journaux comme on assiste à une représentation théâtrale. Vous aimez son sens du défi?
J'ai réussi à vous expliquer le Brexit, je vais réussir à vous expliquer le Uno.
C'est
Lionel Gougelot.
Eh bien, sachez que le vendredi, plus encore que les autres jours, ah bon, c'est plus l'acteur que le journaliste qui s'exprime chez David Doucan, à qui Céline promet visiblement une belle carrière.
C'est vendredi, j'en fais encore plus des caisses. Quand est-ce que tu es en représentation au théâtre Marigny?
Ah oui, t'as pas choisi le plus pourri, hein? Moi, j'aurais dit le point virgule pour démarrer.
Oh l'insolence! Le point virgule! Un tel talent! Il est tout frais dans une si petite salle.
C'est
Céline,
bien,
ne dites pas n'importe quoi, donnez-nous plutôt la météo. Oui.
Oui,
avec
en plus
un programme chargé aujourd'hui, plus vent et orage.
Oui, avec cette tempête Miguel qui va traverser la France d'ouest en est, de fortes rafales de vent sont attendues. 8 départements du centre-ouest sont en vigilance orange. Une journée qui s'annonce très agitée avec de la pluie et des orages, Mathieu.
Mais très bien, fort bien cette météo. Merci Céline.
7h, Mathieu Noël.
Excusez-moi, David Doucan me montrait des photos.
Doucan qui,
à suivre, les trois fantastiques. Politique, économie, médias, l'actu sous un autre angle chaque matin avec nos éditorialistes. Aujourd'hui, on parlera de la rencontre entre le gouvernement et les eurodéputés. Et puis, Axel de Tarlé nous dévoilera le palmarès des enseignes préférées des Français.
Seb.
Oui, non,
Seb.
Axel, ça va. Oui, on sait.
Il est 6h41. Il est 6h44, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Un seul mot d'ordre aujourd'hui, allez les Bleus, c'est au tour des filles de faire vibrer la France. La Coupe du Monde commence ce soir, les Françaises affrontent la Corée du Sud au Parc des Princes. Match d'ouverture, 21h à suivre évidemment sur Europe 1. Cette fois c'est fait, les députés ont renoncé aux 80 km/h. L'Assemblée nationale a autorisé la possibilité de relever la vitesse sur certaines routes départementales, mais pas sur les nationales. Ce sont les présidents de conseils départementaux, mais aussi les maires dans certains cas, qui auront le pouvoir et donc la responsabilité. Enfin, Roland-Garros, cette fois c'est l'apothéose. Le match au sommet, la rencontre que vous attendez tous. Demi-finale homme, 12h50, cours central. L'Espagnol Rafael Nadal contre le Suisse Roger Federer.
Europe 1, 5h, 7h. Mathieu Noël.
Ils sont probablement les trois cerveaux les plus impressionnants de la rédaction d'Europe 1. Trois cerveaux capables de raisonnement lumineux et surtout parfaitement cohérents grâce à une logique sans faille. C'est cette logique sur laquelle j'ai demandé à Céline Dacosta de travailler si elle souhaite intégrer l'équipe des Fantastiques. Et comment dire, elle travaille.
Moi, j'arrive pas à me coucher. Du coup, j'arrive pas à me lever.
La logique est là, hélas, il manque encore un petit truc pour pouvoir rejoindre les trois Fantastiques. Eva Roque pour les médias.
Je bosse.
Aurélie Herbemont pour la politique, Axel de Tarlé pour l'économie. Et on commence par la politique avec vous, Aurélie Herbemont. Édouard Philippe et Amélie de Montchalin reçoivent aujourd'hui les eurodéputés, l'équipe de France, selon les mots de la secrétaire d'État. Sauf que toute l'opposition ne viendra pas.
Et non, 79 cartons envoyés et des chaises qui resteront vides. Les 13 écologistes boycottent, les 6 insoumis aussi, pas d'équipe de France qui tienne. Côté LR, François-Xavier Bellamy vient avec quelques collègues, mais la droite dénonce cette manie insupportable des marcheurs de se présenter comme les grands ordonnateurs de tout. Ils iront surtout pour écouter le Premier ministre et zapperont peut-être le reste du séminaire. Quant aux élus PS Place Publique, une socialiste ira, mais Raphaël Glucksmann s'est fendu d'un tweet assassin. Nous ne sommes pas élus pour porter la voix du gouvernement. Je ne fais partie d'aucune équipe avec le Rassemblement National. Les lieutenants de Marine Le Pen, en fait, sont les seuls à être contents d'être invités. Jordan Bardella a même fait un communiqué pour annoncer sa rencontre avec Édouard Philippe. Ils vont être ravis qu'on vienne, glisse un de ses collègues.
Donc ça va quasiment être un tête-à-tête entre le Rassemblement National et les marcheurs.
Ça vous rappelle rien ?
Si.
La campagne, le duo de tête, 23 élus chacun, et la team Bardella veut venir en force ce matin, comme pour rappeler qui est arrivé premier il y a 15 jours. On s'aime tellement avec les marcheurs qu'on continue la campagne, s'amuse un eurodéputé RN. Le côté équipe, forcément, est encore plus compromis avec eux, vu l'opposition frontale, mais c'est le jeu. On va présenter nos priorités, dit le gouvernement, et écouter celles des autres, c'est un échange républicain.
Merci beaucoup Aurélie Herbemont pour cette information politique. Axel de Tarlé, on passe à l'économie avec vous. L'économie avec les marques, les enseignes préférées des Français. Le palmarès 2019 est arrivé.
Voilà, c'est une étude EY Parthénon. Alors cette année, l'enseigne préférée des Français, c'est... Tadadam, Décathlon, à fond la forme. Je vais citer, attention, je vais citer mes sponsors. Là.
Oui, alors allez-y, là,
en numéro 2, c'est Leroy Merlin. Alors, vous savez ce qu'ont en conseil, ce qu'ont en commun ces deux enseignes, Décathlon et Leroy Merlin ?
La couleur. Ah non, pas du tout.
Alors d'abord, on peut dire. Non. Ce sont deux enseignes où le conseil est très important. Quand vous allez vous acheter une raquette de tennis, vous avez besoin d'un vendeur. Pareil, quand vous allez chez Décathlon pour le bricolage, vous avez besoin.
Chez Décathlon pour le bricolage.
Non, chez Leroy Merlin, pardon.
Ça, c'est que chez Décathlon, le bricolage, vous n'aurez pas beaucoup de conseils.
Voilà, chez Leroy Merlin, pardon. Si je dois réparer une fenêtre, voyez, vous aimez bien trouver quelqu'un qui vous dit faut mettre du mastic, faut mettre des petits clous avant, etc. Et bien ça, Amazon ne le fait pas.
Ah, voilà.
Ben voilà, c'est là où je voulais en venir, parce qu'Amazon dégringole dans ce classement, il passe de la 2e à la 7e place. Parce qu'on voit la force du conseil, et là, ils font un vendeur physique. Il y a une autre dimension qui apparaît aussi dans ce top 10 des enseignes préférées, c'est la dimension plaisir, la dimension il faut bluffer le client. Qui on voit dans le top 10 ? On voit Ikea, on voit la Fnac, ou on voit le Grand Frais. Vous voyez, il y a une théâtralisation de la vente. On montre des salles, je ne sais pas si vous êtes allé chez Grand Frais, mais il y a des vaporisateurs, vous voyez, pour donner une impression de fraîcheur. Et bien ça, Internet ne le fait pas. Et donc, vous voyez, le message d'espoir à un moment où on s'interroge sur l'avenir des commerces de centre-ville, où on s'interroge sur l'avenir de la grande distribution, on s'aperçoit que si on va à la rencontre du client en lui procurant du conseil.
On peut avoir une plus-value.
Ou si, voilà, on est capable de théâtraliser la vente, d'en faire un événement, de bluffer le client, eh bien là, ça marche. Et là, on peut gagner face à Internet. Eh bien, c'est bien la preuve qu'on peut s'en sortir dans le commerce en dur, parce qu'Amazon a une grande faiblesse, c'est que c'est un algorithme et on ne tombe pas sous le charme d'un algorithme derrière son écran.
Voilà qui est joliment dit, Axel de Tarlé. C'était la rubrique Écho. Eva Roque, qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir ?
Eh bien, vous allez tomber sous le charme, derrière votre écran, d'Alain Chamfort, le pape de la pop chic.
Vous allez faire Jean-Pierre
France 3.
François,
non, c'est sur Alain France Chamfort. 3, à 21h, vous reconnaissez quand même la musique, Trace de toi. Qui es-tu, Alain Chamfort ? Eh bien, c'est cette interrogation qui rythme ce documentaire de Laurent Fleischer. Documentaire qui a un atout majeur, au-delà du travail d'archives, du recueil des témoignages, Alain Chamfort y participe avec une longue interview et une balade dans Paris sur les traces de ses 50 ans de carrière. Carrière jalonnée de rencontres, à commencer par celle avec Jacques Dutronc. On est dans les années 60. Jacques Dutronc est déjà un chanteur connu. Hein. Chamfort, lui, il a que 16 ans. Il est batteur pour Jacques Dutronc. Dutronc lui propose de partir en tournée. Et bien, la suite, c'est Chamfort qui la raconte.
Et mes parents, donc, ont souhaité rencontrer les parents de Jacques pour voir un petit peu de quoi il en retournait, quoi. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire que va devenir notre fils, quoi, en gros. Et, donc, il flippait.
Et Dutronc confirme avec un petit sourire en coin.
Jamais, moi, ça me serait bien l'idée que les parents se voient, enfin on n'allait pas se fiancer quand même. Et donc ses parents donc, ont dû rencontrer les miens, qui eux étaient pour la musique de toute façon. Ouais.
Les parents se sont rencontrés et Dutronc avoue qu'à l'époque il avait une drôle d'habitude.
Je trouvais qu'il avait beaucoup de classe. Là. Il était très pur, je trouve. Il était très blanc, d'où d'abord C'est à l'époque où je donnais des surnoms à tout le monde. C'est plus simple que d'appeler par les prénoms ou encore pire, le nom de famille, Monsieur Legovic. J'avais trouvé l'institutrice anglaise. Je trouvais que ça lui allait très bien. Sa peau était très blanche, il était très blanc comme certains Anglais, et assez féminin, quoi.
Magnifique documentaire sur Alain Chamfort, pape de la pop chic, sur France 3 à 21h, avec les évocations de Claude François, Serge Gainsbourg, encore Jane Birkin, avec qui il a travaillé, et cette magnifique chanson, Les Micro-Sillons, qu'on adore. Vous verrez comme il est admiré aussi par la nouvelle génération, de Juliette Armanet à Benjamin Biolay.
Et à juste titre, merci beaucoup Eva Rock pour ce choix télé. Merci Aurélie Abomand, Axel de Tarlé. L'équipe des Trois Fantastiques sera de retour lundi aux alentours de 7h moins le quart.
5h-7h, Mathieu Noël.
Pour l'équipe de Debout les copains, le week-end approche, mais la matinale d'Europe 1 présentée ce matin par Mathieu Béliard arrive, précédée de son traditionnel débrief. Un débrief, la main au cœur ce matin. Puisqu'hier, toute l'équipe de la matinale, sauf Céline Dacosta et François Geffrier, étaient en Normandie pour une spéciale retraçant le débarquement du 6 juin 44. Énormément d'émotions sur place et aussi en studio à Paris, où Céline et François sont restés très concentrés.
Mais la ville est jusqu'à aujourd'hui un peu restée dans l'ombre face à la mer, sur ce fut...
Face à la mer.
Calopatie de 004.
Ah, t'as vu ? Tranquille, tac tac ou bien.
Le meilleur est à venir, le débrief. Tous les offs de la matinale d'Europe 1 à suivre.
Bon réveil, il est 6h52. Il est 6h55, Mathieu Noël.
Debout les copains s'apprête à savourer le seul avantage de la vie de petit matinalier, partir en week-end à 7h du mat. Mais d'abord, vous le savez, le meilleur est à venir. Le débrief de la matinale d'Europe 1. Or hier, comme aujourd'hui, c'est Mathieu Béliard qui remplace Nico Salégas. Céline, je sais que vous adorez Mathieu.
Je vois pas qui c'est.
Non, pas du tout, pas du tout. Suivez votre feuille de service, c'est écrit. Vous l'écoutez tous les soirs de 17 à 20h sur Europe 1, bien sûr. Moi aussi, un type génial. Nico l'a entendu un jour dans un reportage, il l'a trouvé brillant.
C'est beaucoup mieux que ça. Je suis dans une Navia. La Navia, c'est une navette autonome. Écoutez. Il n'y a rien à entendre.
Passionnant.
Il s'est dit, c'est ce gars-là que je veux pour mes remplacements. Et il a eu raison. Hier, en direct d'Aromanche, pour cette spéciale sur les 75 ans du débarquement, Mathieu a su captiver les auditeurs, comme par exemple Céline D de Paris, qu'on a senti, le mot n'est pas trop fort, passionné.
Oui Céline, vous allez entendre des hommes qui ne parlent jamais. C'est l'élite de l'armée française. La règle pour eux, c'est l'anonymat.
Est-ce que je peux aller faire pipi maintenant ?
Céline qui, restée en studio à Paris, a néanmoins parfaitement pris la mesure de l'événement. Un événement à la fois historique, émouvant, solennel. On pense évidemment à ces centaines de milliers de soldats tombés au combat sur ces plages, sous ces falaises.
Ça va faire une bonne pub à Romanche, là. C'est joli comme coin.
Non, mais Céline, c'est pas l'idée, là.
Cette espèce de falaise, c'est joli. T'as vu, hein, ils ont une... c'est le plus beau studio en extérieur qu'on ait eu depuis le début de la saison. Et dire que Nico, s'il a été en centrale nucléaire, il aurait pu être au bord de la mer.
Excusez-la, l'émotion certainement. Bon. Eva Rock aussi était très émue hier dans notre émission. Elle en balbutiait.
De Obama Beach.
Le musée de quoi ?
Obama Beach.
Quel musée ?
Ah oui. Oh là là, je suis désolée.
Ça a du bien de visiter Obama Beach. Bref, mon cher Mathieu, je vous souhaite bonne chance. Je reprends Eva Rock, mais je vous laisse Céline Dacosta. Céline, veillez bien sur Matounet. Il est jeune, certes, mais ô combien talentueux. Attention quand même, Mathieu, à ne pas aller chercher Nico Salégas sur le terrain de la répartie humoristique. Vous risqueriez de souffrir de la comparaison.
Je vous propose d'écouter Sébastien Mayol. C'est le co-président de l'association de sauvegarde de l'œuf mayonnaise.
C'est plutôt un œuf mayol. Oh. Elle est pas mal. Hein.
N'essayez pas de faire mieux, c'est impossible. Bonne journée à tous.
Merci beaucoup Mathieu Noël et toute la bande de Debout les copains. Eva Rock, Céline Dacosta, bonjour.
Bonjour.
J'ai failli dire bonsoir.
Je me doute.
L'info continue sur Europe 1. Merci, merci à vous trois. J'espère que tout va bien pour vous toutes et tous qui nous écoutez. Laurent Cabrol est en ligne avec nous aussi.
Ouais, bonjour, voyons, Laurent. Bien sûr.
Bonjour, Laurent.
Comment ça va, Laurent ?
Moi, ça va pas mal, mais Miguel, ça va moins bien. Miguel, c'est la tempête qui arrive et qui nous vient du Portugal. Et c'est une tempête particulièrement méchante qui n'arrive pas avec sa valise en carton, mais avec la grosse artillerie. Déjà, les vents ont atteint les 120 km/h en Poitou-Charente. L'océan est en folie, des vagues de 3 à 5 mètres. Donc, vous voyez, c'est une tempête d'été, donc c'est une tempête rare. Il n'y a que 5% des tempêtes qui se déclenchent en été. Et c'est la raison pour laquelle il faut la prendre au sérieux. Et tout au long de la matinale, eh bien, nous vous dirons ce qu'il faut en penser et là où il faut faire attention. Alors, en Bretagne, en Anjou, Poitou-Charente, Vendée et en Touraine, c'est là qu'actuellement ça se passe. Avec toute la journée, du vent, des orages. Il y en a déjà eu un vers en Cognac et Angoulême, et donc des rafales de vent extrêmement soutenues. Sur la Nord, le Nord, la région parisienne, la Lorraine, l'Alsace, la Bourgogne, la Franche-Comté, Rhône-Alpes, Vallée du Rhône et Auvergne, d'abord de la pluie et ensuite des orages et des vents importants, notamment sur Paris, avec des rafales à 100 km/h. Un peu à l'écart, le Béarn, le Midi-Pyrénées, le Languedoc et la région PACA. On vous parlera des températures tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas, côté température, c'est entre 17 et 27 degrés.
Merci Laurent Cabrol.
Le prochain point météo, ce sera juste avant le journal de 7h30.
Mathieu Noël, tous les jours de 5h à 7h sur Europe 1.